Avec le chiffre du jour, un chiffre qui va nous permettre de comprendre, mais alors très concrètement, les modifications profondes que cet élargissement occasionnerait à l'Europe.
Et ce chiffre, c'est 2299 kilomètres. C'est le nombre de kilomètres de frontières supplémentaires que l'on aurait, nous, l'Union européenne, avec la Russie. Si l'Ukraine et la Géorgie intégraient l'Union européenne, c'est considérable, c'est le double des frontières actuelles. Alors, est-ce que ça nous rendrait plus puissants ou au contraire, est-ce que ça nous rendrait plus vulnérables? Qu'est-ce que vous en pensez, Monsieur Gordatsé?
Je pense que déjà, il ne faut pas effrayer les gens en leur disant que ça arrivera demain, que l'Ukraine, la décision qui va être prise au Conseil de l'Union européenne, ça va être l'Ukraine demain, membre de l'Union européenne. C'est un processus très, très long. On parle de la candidature, c'est-à-dire reconnaître la vocation de l'Ukraine à rejoindre un jour l'Union européenne, quand les conditions seront remplies, et ces conditions peuvent prendre des années, et de refuser, encore une fois, ce que je disais, de refuser cette candidature à l'Ukraine, ça reviendrait d'offrir ce pays à la Russie sur le plateau, parce que dans la région, attention, on n'a pas tellement de choix géopolitiques, il y a deux choix, la voie européenne et la voie russe. Et également, c'est un choix aussi de politique interne, c'est-à-dire l'autoritarisme, la dictature d'un côté et la démocratie libérale de l'autre côté. Donc on ne peut pas refuser aujourd'hui raisonnablement cette candidature à l'Ukraine et après attendre éventuellement que petit à petit ce pays avance pour remplir ses conditions.
Alors Monsieur Guénot, est-ce qu'il serait utile pour l'Union européenne de conserver des états tampons compte tenu de la proximité avec le géant russe?
Alors d'abord, je ne comprends pas qu'on pense pouvoir rendre l'Europe plus influente et plus puissante en la diluant de plus en plus. Ah, c'était l'objectif d'ailleurs de Mme Thatcher quand elle était favorable à son élargissement à l'infini. L'Europe, ça ne marche déjà pas très bien. L'Union européenne est au cœur de la crise démocratique que vivent pratiquement tous les pays européens. Si demain on fait rentrer la Géorgie, l'Ukraine, la Moldavie, plus les six autres pays des Balkans, ça fait 9.
On en parlera.
Et puis peut-être un jour la Biélorussie, parce que la question se finira par se poser un jour. Mais je veux dire, c'est ingérable, ce sera ingérable. Voilà. Et donc il va falloir beaucoup de temps. Ce qui me frappe, c'est qu'on se dit toujours, mais ça fait des décennies qu'on gouverne comme ça en Europe, on se dit toujours, bon, c'est pas grave, c'est pour dans longtemps. Voilà. Mais ça, sauf qu'un jour, le dans longtemps finit par devenir le présent. Et si, imaginez que finalement, au bout du compte, on ne fasse pas entrer l'Ukraine, la Géorgie, après leur avoir promis, la Moldavie, la frustration sera encore pire. Voilà. Mais cette Europe-là, élargie de cette façon, elle ne pèsera plus rien. Et d'ailleurs, existera-t-elle encore sous sa forme actuelle? Moi, je veux bien qu'on dise, on va réformer l'Europe. Et après, après tout, la proposition
d'Emmanuel Macron, de la République. Mais on va en parler tout à l'heure. On va y revenir tout à l'heure. La communauté européenne.
Est-ce qu'il y avait urgence, Marion Gaillard, à envoyer ce signal aux Ukrainiens?
Oui. Je partage complètement ce qui a été dit par mon voisin de gauche. Je crois que c'est une urgence parce qu'effectivement, il y a une urgence sur le terrain. Et donc, il fallait y répondre. C'est la vocation de l'Union européenne depuis les origines, depuis le projet des pères fondateurs, de créer un espace de paix et de démocratie. Donc, c'est tout à fait dans la logique du processus même de l'intégration, en tout cas de la construction européenne. Et ingouvernable, je ne partage pas vraiment cet avis, dans la mesure d'une part où le traité de Lisbonne qui a été négocié par Nicolas Sarkozy, a rendu largement plus gouvernable l'Europe qu'elle ne l'était avant avec le principe de la double majorité au Conseil des ministres. Il reste évidemment l'obstacle de l'unanimité au Conseil européen et dans certains domaines. Mais par ailleurs, pour la rendre davantage gouvernable, il faut en effet la réformer en allant dans un sens qui est peut-être celui que M. Guénot ne souhaite pas, qui est moins d'intergouvernementalisme et plus de supranationalisme.
Une réaction d'Henri Guénot.
Ma réaction, c'est que l'Europe n'a servi à quelque chose face aux crises que lorsqu'elle a fait de l'intergouvernemental. Voilà, c'est tout le reste, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas parce que ça repose sur l'idée qu'il existerait un peuple européen qui est, sur lequel on est capable d'asseoir une démocratie. Or, ce peuple, il n'existe pas. Il existe des peuples européens. Et on voit bien que les peuples n'en peuvent plus. Même les plus européens n'en peuvent plus d'être dessaisis de tout pouvoir, de choisir leur destin. Je veux dire, accroître encore la règle de la majorité, mais c'est accroître, c'est approfondir la crise démocratique dont on commence à voir les effets sous nos yeux. Enfin, je veux dire, c'est prendre un risque considérable. C'est irresponsable. Voilà. C'est irresponsable du point de vue de la démocratie et c'est même irresponsable, pardon, du point de vue de la paix.
Alors, vous allez réagir, mais on va évoquer avec Nadia avant. Vous faisiez allusion à la proposition d'Emmanuel Macron, qui est une sorte de mi-chemin communauté politique européenne. On en parle.
C'est une idée, en effet, qui a été lancée par Emmanuel Macron. C'était à Strasbourg le 9 mai dernier, d'ailleurs, à l'occasion de la journée de l'Europe, celle d'une communauté politique européenne à laquelle donc pourrait être intégrée l'Ukraine et d'autres pays. On va y revenir. Il s'agirait, selon les mots du président français, non pas d'une alternative à l'adhésion, mais, je cite, d'une façon de renforcer les liens avant l'adhésion, c'est-à-dire davantage des préliminaires, on peut dire les choses ainsi, qu'un pis-aller pour ce qui est des champs d'application de cette coopération. Paris, toujours, a cité la sécurité alimentaire, l'énergie, les transports, les infrastructures et la circulation des personnes. Plus concrètement, sont envisagés des sommets réguliers à Bruxelles où tout le monde serait assis autour de la même table, à la fois les dirigeants des 27 et ceux des pays membres de cette communauté. C'est pas encore très clair, mais il semble que la France a également envisagé d'offrir à ces pays un statut d'observateur aux différents conseils européens, et même des sièges sans droit de vote au Parlement. Il y a une dernière question qui est importante, qui est toujours en suspens, c'est qui pourrait adhérer à cette fameuse communauté, donc l'Ukraine, la Géorgie, peut-être la Moldavie, les Balkans. Mais la France n'a pas non plus fermé la porte à la Turquie, également au Royaume-Uni, qui a décliné poliment. Tornike Gordadze, est-ce que c'est un bon compromis, c'est du bon en même temps?
Disons que les pays à qui s'adressait ce message n'étaient pas vraiment convaincus de cette proposition. Ils ont remercié
poliment.
Par l'Ukraine, évidemment, qui disait que de toute façon, nous avons déjà l'OSCE pour parler des questions politiques de la sécurité sur le continent européen. Nous avons le Conseil de l'Europe, où tous les pays européens qui sont sur le continent européen sont membres. Donc eux, ce qu'ils voulaient, c'est la reconnaissance de leur vocation de devenir membre de l'Union européenne. Mmh. Quand on a signé les accords d'associations notamment, etc. C'était un pas qui avançait vers le
grand... Il y a l'envie aussi de faire partie d'une communauté de valeurs, c'est ce que dit l'Ukraine.
Bien sûr, parce qu'aujourd'hui, la guerre en Ukraine, c'est aussi une guerre pour les valeurs. On voit ça très clairement. Parce que d'un côté, là, M. Guénot a parlé de la Biélorussie. Oui, la Biélorussie se range avec la Russie. Comme toutes les autres dictatures au monde se rangent du côté de la Russie et des pays qui choisissent la démocratie. Et en Europe post-soviétique, c'est l'Ukraine, la Géorgie et la Moldavie. Eux, normalement et tout naturellement, sont attirés vers l'Europe. Juste un dernier mot l'idée de la crise démocratique. Évidemment, il y a une crise démocratique en Europe, mais à chaque fois qu'il y a eu un élargissement, ces élargissements se sont accompagnés par l'approfondissement.
Justement, 2004, il y a 10 États qui sont rentrés d'un coup. Alors qu'est-ce que ça... Finalement, c'était possible. L'Union européenne s'est adaptée.
Oui, l'Union européenne s'est adaptée. On a essayé, parce qu'il faut rappeler qu'il y a eu 15 ans entre la chute du mur et l'intégration de 10 nouveaux pays, et on a eu plusieurs opportunités d'approfondir qu'on a peu ou pas saisi, ce qui fait que quand on a approfondi, l'Europe n'était pas complètement prête. Et malgré tout, et je m'étais moi-même trompée parce que j'avais dit « Ouh là là, ça va être terrible », l'Europe s'est adaptée. Maintenant, le traité de Lisbonne a été encore une fois le bienvenu pour faciliter, mettre de l'huile dans les rouages de cette Union européenne élargie. Mais elle est, à mon avis, tout à fait capable d'absorber. Ensuite, attention, il ne s'agit pas de dire que ce sera simple. Ça n'est pas simple à 27, ça n'était pas simple à 25, mais ça n'a jamais été simple. Alors, ça n'était pas simple dans les années 50, quand la France bloquait la CED, ni pendant le gaullisme, ni avec Margaret Thatcher. Donc ce mythe d'une Europe petite qui, du coup, fonctionne bien est totalement déconnecté de la réalité historique.
On parle de 3 pays, mais en réalité, je me tourne vers vous, Henri Guénot, il y a plusieurs pays, il y a même 6 pays qui regardent ça de près, c'est les pays des Balkans. Il y en a 4 qui sont déjà candidats officiellement, il y en a 2 qui sont en attente de l'être. Est-ce qu'ils ont vocation à rentrer dans l'Union?